Radio.
Les couleurs du monde.
Histoire.
Pensée.
Culture.
De Villefranche à Tataouine. Bonjour amis de la camarade, eh bien vous êtes au bon endroit en train d'écouter votre émission préférée, Couleurs du monde. Aujourd'hui nous allons vous parler des thérapies cognitives et comportementales avec une invitée que vous découvrirez après la chronique de Jean-François, notre spécialiste géopolitique. C'est parti pour une fenêtre ouverte sur le monde.
Galade.
Les couleurs du monde. Salut Jeff, alors De quoi tu vas nous parler aujourd'hui ?
Je vous propose une petite devinette pour introduire un petit peu le sujet. Il va falloir réussir à savoir de quoi je vais parler justement.
Super, ça commence bien, il va falloir être attentif. Donc.
Voilà, il faut trouver une ancienne colonie française. C'est un État indépendant depuis 1979 et grand comme la Lorraine, peuplé d'à peine plus d'un million de personnes, situé en Afrique de l'Est, dans ce qu'on appelle la Corne de l'Afrique. Son rôle géostratégique est primordial pour assurer la sécurité du commerce maritime mondial, car il partage avec le Yémen le contrôle du détroit de Bab el-Mandeb, véritable verrou de la mer Rouge et point de passage obligé entre l'Europe et l'Asie. Une position géostratégique qui a poussé de nombreuses grandes puissances à y installer des bases militaires. Alors, Patrick, c'est bon, tu l'as ? Oui, bravo, champion.
Je vous dis pas la tension qu'il y avait sur le plateau.
Oh, on sent les mineurs.
C'est bon, Patrick, tu l'as.
Pas question que j'échoue.
Bon, alors maintenant qu'on l'a identifié, qu'est-ce qui te pousse à nous parler de ce petit État ?
Bah, il n'aura pas échappé à ta sagacité, Geneviève, hein, que la situation au Moyen-Orient est particulièrement tendue depuis le 7 octobre dernier. En plus d'Israël et du Hamas, d'autres acteurs sont directement impliqués dans cette crise. Ainsi, les rebelles yéménites houthistes, aidés par l'Iran, manifestent leur soutien au Hamas en attaquant les navires marchands qui ont des liens avec Israël.
Houthiste, ça veut dire quoi ça, houthiste ?
Il s'agit d'un mouvement politique et militaire rebelle, issu d'une branche minoritaire de l'islam chiite, dans un Yémen qui est, lui, majoritairement sunnite. Ils sont donc logiquement soutenus par l'Iran, qui les intègre dans ce qu'on appelle l'axe de résistance, qui regroupe les mouvements de la région hostile aux États-Unis et à Israël. Les houthistes, qu'on peut aussi appeler houthis, ont entamé une guerre civile contre le pouvoir central yéménite en 2014. Et leur succès leur permet aujourd'hui de contrôler environ un tiers du Yémen, correspondant aux régions montagneuses de l'Ouest et comprenant des villes d'importance, comme la capitale, Sanaa, et aussi le port d'Hodeïda. L'intervention israélienne à Gaza sert aux houthistes à faire oublier aux yéménites, qui sont très majoritairement pro-palestiniens, que la guerre civile qu'ils ont provoquée aboutit à une très sévère insécurité alimentaire. Et c'est depuis les zones qu'ils contrôlent donc que les houthistes attaquent, depuis décembre surtout, des navires civils ou militaires transitant par la mer Rouge et empruntant le détroit de Bab el-Mandeb.
Ok, alors d'où le lien avec Djibouti, qui se situe de l'autre côté justement de ce détroit, sur le continent africain, cette fois-ci.
Ouais, effectivement. Hein. Comme il l'a été pour l'opération Atalante de lutte contre la piraterie, Djibouti constitue une place essentielle aujourd'hui pour assurer le soutien des actions aéronavales menées par la coalition internationale qui est dirigée par les États-Unis aujourd'hui, comme de la future opération d'ailleurs européenne qui doit éclore dans les prochains jours, là ça va pas tarder, pour contrer donc les attaques de ces rebelles houthistes.
Ok, alors il faut dire que sa position stratégique attire de nombreuses grandes puissances à Djibouti. Elles y ont installé des bases militaires, c'est bien ça ?
Ouais, c'est bien ça. Hein. Et puis la première d'entre elles, c'est la France, qui est donc l'ancienne métropole de Djibouti, qui est présente depuis 1884. Et malgré l'indépendance du pays, la France a gardé des forces sur ce territoire. En effet, aujourd'hui, il y a 1450 soldats français qui sont présents en permanence sur le sol de Djibouti. Ils forment ainsi le premier contingent français en Afrique, qui permet à notre armée d'être autonome et de bien connaître cette zone. On l'a vu ainsi en avril 2023, où la France a été très efficace dans l'évacuation des ressortissants étrangers au Soudan. La France abrite également des forces des États européens qui sont présents dans sa base. Car, je le répète encore une fois, cet emplacement est essentiel au commerce européen puisque quand même 78% des conteneurs qui rejoignent l'Europe passent par la mer Rouge. Les États-Unis sont également présents depuis 2002. C'est une décision qui avait été prise par George W. Bush à l'époque, après le 11 septembre 2001, dans sa lutte contre les groupes terroristes présents en Somalie ou au Yémen. Enfin, en 2017, la Chine a ouvert sa première base militaire à l'étranger à Djibouti, elle aussi. Environ 400 soldats chinois sont chargés de sécuriser les échanges chinois. En effet, cette base chinoise fait partie de la stratégie du collier de perles mise en place par Xi Jinping pour protéger les nouvelles routes de la soie. Et pour être totalement exhaustif, on peut dire aussi qu'il y a une base japonaise qui existe à Djibouti. Et puis l'Arabie Saoudite, la Turquie et l'Inde s'intéressent également à ce territoire.
Autant dire que c'est un sacré verrou qui est occupé par beaucoup de puissances importantes. Donc ça met en avant l'intérêt pour cette république. Et pourquoi autant de forces armées alors, finalement ?
Eh bien, justement, pour sécuriser ces territoires. Mais ces forces armées aussi sont très importantes pour l'État de Djibouti parce que ça va apporter énormément de richesses, puisque les États vont devoir verser des loyers à Djibouti. Et tout ça, ça représente quand même 10% du budget national de Djibouti et 3% du produit national brut, pour un montant d'environ 170 millions de dollars. Le camp américain de l'aumônier, par exemple, c'est le troisième employeur du pays quand même. Cependant, l'argent est très peu redistribué dans cet État où 70% ouais, c'est ça, de la population vit avec moins de 3 dollars par jour. Le pouvoir central est aujourd'hui occupé par le président Ismail Omar Guelleh et il profite largement des largesses des États qui viennent louer des terres à Djibouti, alors que son pays se classe seulement à la 166e place du développement humain. La concurrence entre les puissances étrangères peut aussi avoir une place, peut augmenter les relations diplomatiques de Djibouti et ses capacités dans ce domaine-là, en jouant avec les différences idéologiques de différents États. De plus, la nature des contrats signés permet à Djibouti de quand même conserver une forme de contrôle sur ses bases, contrairement à d'autres bases étrangères dans d'autres États, comme à Guantanamo pour Cuba ou à Chypre, où les États-Unis et le Royaume-Uni, eux, possèdent des baux qui n'ont pas de fin prévue. Alors qu'à Djibouti, les fins sont, enfin, il faut toujours renouveler les contrats.
Ok. Alors, quelles sont les issues possibles à cette situation ?
Eh ben, la République de Djibouti, pour l'instant, s'est jouée avec une grande intelligence des différentes positions stratégiques des autres États. Elle a ainsi refusé d'accueillir une base iranienne en 2017 et a également refusé l'installation d'une base russe. L'État a ainsi été relégué dans le camp de la coalition arabo-occidentale, face à l'alliance plus ou moins officielle entre l'Iran, la Russie et la Chine.
Ok, donc en résumé, rien n'est écrit.
Et tout reste à faire.
Eh bien, c'est une belle perspective.
Merci.
Merci.
Galade.
Les couleurs du monde. Eh bien, enchaînons avec, cette jolie chronique qui nous rappelle que finalement, on étudie l'histoire, on étudie des pages déjà écrites, mais elles n'engagent en rien notre futur. Et ça, c'est précisément ce dont nous allons parler. Voilà, je vous propose aujourd'hui une émission en étant bien entourée. J'ai nommé, évidemment, Patrick.
Bonjour.
Emma.
Tout le monde.
Jean-François. Et notre sémillante invitée, j'ai nommé Christelle Rey, qui va nous accompagner aujourd'hui pour nous parler de, eh bien quoi, alors des TCC. Alors, vu comme ça, je ne sais pas si vous allez rester derrière votre poste de radio, mais alors TCC, ça veut dire quoi ? Ça veut dire taxe sur les chatons très mignon, taxe. Non, je ne crois pas qu'il s'agisse de taxes. Hein. Qu'est-ce que vous en dites, Christelle ?
Non, taxe. Taxe comprise, pourquoi pas ?
Ouais.
Comme ça aussi. Toute taxe comprise pour revenir et rebondir. Non, ça veut dire thérapie cognitivo-comportementale.
Ah, voilà qui est très intéressant.
Notre chère invitée s'appelle Christelle Rest.
Hein. Oh ! Ah bah ça commence bien.
Il fallait rectifier.
Il fallait rectifier.
Merci.
Voilà, donc merci Patrick. Bon, donc on dira Christelle. Voilà, bah ça c'est fait. Vous voyez, c'est en se plantant qu'on
on progresse.
Bien, alors, eh bien, donc Christelle, donc tu interviens ici en tant que... Alors, je ne vais plus rien dire, je crois, en tant que psychologue,
psychothérapeute.
Mais en même temps, en étant plutôt comme un messager, je vais dire ça comme ça, pour parler des thérapies cognitivo-comportementales, afin qu'on puisse avoir une idée un petit peu plus précise sur ce qu'elles peuvent apporter aujourd'hui en psychothérapie.
Ok. Parce que rien n'est joué, justement ?
Ben, c'est-à-dire que c'est une approche qui est assez récente, hein, qui, jusqu'à maintenant, on avait la psychanalyse et on s'est aperçu que c'était très bien de travailler sur le pourquoi, mais c'était très long. Et c'est vrai que dans cette école, on s'est aperçu très vite que, ben, au bout d'un moment, les gens abandonnent et puis en même temps, ça s'adressait à des gens qui avaient beaucoup de moyens.
Oui.
Parce que ça coûte cher. Alors qu'il existe d'autres thérapies, et les thérapies comportementales et cognitives ont fait leur preuve. Aujourd'hui, il y a beaucoup de littérature sur ce sujet qui prouve qu'elles sont très efficaces dans beaucoup de pathologies. Et en même temps, ce ne sont pas des thérapies qui obligent à prendre un traitement allopathique à côté. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait pratiquer les TCC, se soigner par les TCC, sans prendre forcément d'antidépresseurs. D'anxiolytique.
L'origine intellectuelle de ces thérapies, c'est les États-Unis, on est d'accord ?
Oui, c'est l'Amérique du Nord.
Et donc ça s'est structuré à travers diverses époques ?
Oui, c'est-à-dire que dans les années 60-70, on a repris les travaux de Pavlov, qui étaient donc sur le conditionnement, ce qu'on appelle le behaviorisme, où on s'était aperçu qu'on a tous un comportement, on a tous un comportement parce qu'on a été conditionné. Et même d'ailleurs, bon, on a les chiens de Pavlov hein, qui, par exemple, salivaient au moment où ils savaient qu'ils allaient avoir leur gamelle. Et à l'époque, Pavlov a voulu montrer qu'en mettant une sonnette, on allait avoir exactement la même réaction.
Voilà.
Et c'est ce qui a été prouvé.
Donc après, il suffisait d'enclencher la sonnette, de faire sonner la sonnette et les chiens salivaient parce qu'ils avaient associé la sonnette au moment du repas, donc à l'envie de manger. Et donc voilà, c'était l'expérience la plus connue fondatrice du comportementalisme.
Alors même qu'il n'y avait pas de nourriture pour le coup.
Oui, 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 tout à fait, voilà, c'était ça, alors qu'il n'y avait pas de nourriture associée.
Exactement. Donc déjà, c'était déjà une première approche et qui était assez positive parce qu'on est conditionné depuis tout petit et ça a permis de commencer à avancer. Mais ensuite, on s'est quand même aperçu que nous avions une capacité de cognition, de pensée. Et la pensée est devenue également très importante dans cette deuxième vague, donc juste après, ce qu'on appelle la deuxième vague des TCC, où l'étude du processus cognitif a vraiment été mise en exergue.
Donc, en fait, il a fallu attendre que la science, elle s'y mette, quoi, dans la boîte noire. Hein, parce qu'au départ, ils disaient, c'est la boîte noire, on n'y touche pas. Ça, c'était la première vague.
Ouais.
Mais la deuxième vague, la science a commencé à creuser. Et c'est cet apport, ce deuxième apport qui a été... le résultat de ces progrès de la science, en quelque sorte.
Exactement. Donc, la pensée a un atout majeur également dans nos comportements. Et ensuite, on s'est aperçu que on a quand même une troisième faculté, c'est nos émotions. Et les émotions interviennent également. Donc là, on est dans la troisième vague des TCC, qui est arrivée un petit peu plus tard, plutôt dans les années 90, où là, on est plus dans le mindfulness, acte, c'est-à-dire qu'on va commencer à prendre conscience de nos émotions, de nos pensées et de nos comportements. Donc c'est vraiment une introspection.
Alors je t'arrête juste une petite seconde, tu as prononcé le mot acte.
Acte. Acceptation, c'est... engagement en français.
Voilà. Okay.
Donc c'est également une technique et un mouvement dans la troisième vague.
Et si je peux me permettre, tu as dit aussi mindfulness.
Mindfulness.
Alors pour nous, c'est parlant la pleine conscience, mais peut-être ça ne l'est pas pour tout le monde.
Ben c'est la pleine conscience.
Voilà.
Donc c'est vraiment ça. Oui, c'est vrai que c'est le terme qu'on utilise le plus souvent.
Ok. Alors, si je comprends bien, on va avoir donc un temps où on va découvrir toutes ces thérapies. Ensuite, on va se positionner, enfin, on va réfléchir à cette relation patient-thérapeute. Mais avant toute chose, si on écoutait un tout petit peu de musique.
Thank you.
d'écouter Love de Sofiane Pamar. C'est Christelle qui a choisi ce magnifique morceau. Tu veux nous en dire quelques mots ?
Beaucoup, c'est un pianiste fantastique. Pour moi, c'est un génie. Il a l'oreille absolue. Il fait de magnifiques compositions. Maintenant, je sais qu'il compose pour beaucoup. En même temps, c'est vrai qu'il est jeune et plein de talent. Et il me touche énormément. Et ce morceau-là, plus particulièrement.
Merci. Eh ben, nous voilà lancés sur une belle source d'inspiration. Alors, si on reprend un petit peu notre sujet, alors, chers auditeurs, vous êtes bien sur Calade Ma Radio, Couleur du Monde. Donc, on évoque aujourd'hui les TCC, donc les thérapies cognitives et comportementales. Partons à la découverte donc, de ces thérapies. Christelle, qui nous accompagne, va nous expliquer un petit peu donc, les origines, la philosophie de ces pratiques. Qu'est-ce que t'en dis, Christelle ? Par quoi tu pourrais commencer ? Ou continuer, plus exactement ?
Bah, la philosophie de cette pratique, c'est qu'elle s'adresse à beaucoup de gens. Mm-hmm. Et elle peut correspondre, en effet, à une pratique qui est beaucoup plus, on va dire, simple, dans le sens où on est sur un langage simple. On n'est pas sur un langage compliqué. On est en interaction avec son thérapeute. Et puis surtout, c'est que on a un objectif aussi qu'on peut mettre en place par rapport au trouble qui, en général, fait venir le patient. C'est-à-dire que les thérapies, de façon générale, s'appuient sur essentiellement, on va dire, le processus de la souffrance. Donc, parce qu'on souffre, on a parfois besoin de comprendre pourquoi et surtout comment résoudre, en tous les cas, trouver...
Ah, ça, je crois que c'est tellement important. En fait, voilà, c'est pour moi, on touche à un des points essentiels de cette émission, c'est de bien rappeler que finalement, la thérapie ne vise pas à changer le passé, parce que ça, ce n'est pas possible, par définition. Mmh. Par contre, c'est vivre au présent au mieux et aller vers un avenir, du coup, meilleur, ou en tout cas, où on peut être déchargé du poids de schémas, de poids de souvenirs, de poids d'événements traumatiques. Et ça, évidemment, on n'est pas obligé de s'engager dans un processus long, coûteux, pas forcément ouvert à tout le monde, c'est bien ça ?
Tout à fait. C'est-à-dire que quand on entame une thérapie en TCC, on travaille sur ce qui nous amène, donc le trouble, par exemple quelqu'un qui a un trouble anxieux, parce que ça s'adresse donc aux gens qui souffrent de phobie, qui souffrent de TOC, qui souffrent de dépression, de troubles paniques, et d'autres encore. Et donc, quand ils viennent, très souvent, ils ont besoin de savoir comment je peux m'en sortir.
Ouais, alors je crois que ça c'est... Je ne sais pas si tu es d'accord, Christelle, mais je pense que les gens, quand ils viennent vers toi, ils ne se disent pas « Ah, je souffre de dépression ». Peut-être c'est juste qu'on a un inconfort dans le présent, dans ce qu'on ressent. Et justement, tu vas aider le patient à mettre des mots, mmh. et ensuite à l'aider sur son dans son cheminement.
Bon, il est vrai qu'en fonction du patient, certains viennent parce qu'ils savent, mmh. mais d'autres ne savent pas, justement. Mmh. En effet... ça permet de pouvoir mettre des mots, parce qu'on fait ce qu'on appelle de la psychoéducation. Donc, quelqu'un qui souffre d'un syndrome dépressif, on va lui expliquer ce qu'il est en train de vivre et pourquoi il est en train de le vivre. Mmh. C'est-à-dire que, dans le sens pourquoi, c'est que s'il a des troubles du sommeil, qu'il a des sueurs, des suées, des palpitations, le moral qui est plutôt en berne, il y a tout un processus, dans le cas de la dépression, qui fait qu'on va expliquer ce qu'est la dépression au patient.
Mettre des mots, quoi, sur un ressenti. Des mots,
ouais. Tout à fait. Et des mots sur les mots. C'est super important, en plus avec un vocabulaire très simple.
Mmh. Et il y a une chose aussi que je trouve intéressante, c'est qu'il y a beaucoup d'outils et que du coup, en fonction de la demande, on peut switcher sur plein d'outils différents.
C'est ce qu'on va voir.
Je
ne
sais pas si tu veux un petit peu en parler.
Dans les parties suivantes, oui, tout à fait.
Je trouve que c'est bon à savoir par rapport à une analyse où à un moment, l'outil, c'est que la parole, alors que là, on a vraiment une palette qui va pouvoir être adaptée à chaque cas, à chaque moment, à chaque patient, à chaque demande.
On va évoquer ça, oui, dans la deuxième partie.
Exactement. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Dans nos fonctionnements, on met en place des stratégies. Hein, tout à l'heure, on parlait un petit peu de conditionnement. Oui, on est conditionné, on a des pensées, on a des émotions qui s'y rapportent. Et on va travailler sur ces trois piliers. Parce que l'un ne va pas sans l'autre.
Alors, redis-moi les trois piliers,
les
du coup.
Les trois piliers, donc, c'est l'émotionnel, la pensée, le comportement. Après, on le prend comme on veut.
D'accord.
Dans tous les sens. On va retrouver, justement, si j'ai ce comportement, c'est souvent parce que j'ai cette pensée. Parce que j'ai cette pensée, je vais ressentir aussi cette émotion. Donc, quelqu'un qui, par exemple, se sent nul parce qu'il a été conditionné, l'air de rien, parce qu'il a entendu petit qu'il était nul, qu'il ne valait rien. Il va, par exemple, déclarer un syndrome un peu dépressif. Donc, aujourd'hui, il est parent, il y a son gamin qui va avoir des notes mauvaises, et il va se dire, tout est de ma faute. Parce que, justement, je suis trop nul pour pouvoir l'aider.
Est-ce que c'est ce qu'on appelle là, les scénarios de vie autodéfaitistes, ça, un petit peu? Non? J'ai lu ça quelque part.
Oui, alors
c'est pas du vocabulaire qui.
Mais c'est vrai que, bon, je. Dans le cadre, en tous les cas, de mes séances, j'essaye de moins possible de,
ouais,
d'utiliser des termes. Mais il est vrai qu'on a plusieurs types de distorsions cognitives.
D'accord.
Donc, mais bon, on peut en parler aussi. Hein. Mais c'est vrai que donc, ça fait partie des distorsions cognitives que l'on a. Et donc, cette dévalorisation, c'est parce que cet adulte, petit, a été sans doute dévalorisé.
Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que je trouve fantastique. Ça veut dire que rien n'est écrit et qu'on est libre, justement, de se défaire de ses chaînes.
Exactement. Donc, l'approche cognitive, justement, c'est de commencer à prendre conscience de ce qui se passe. Comment je réagis? Donc, on va avoir, par exemple, une situation qui va amener une émotion, par exemple. Quelqu'un qui est dépressif va tout voir en noir. Moi, j'avais, bon, on peut parler de métaphore des lunettes noires, alors qu'en réalité, derrière ces lunettes, tout est clair. Mais lui, par rapport à ce qu'il est en train de vivre, il a des lunettes noires qui font qu'il va voir de façon négative. Tout va être négatif, tout va être défaitiste.
Et c'est vraiment une histoire de point de vue.
On a rencontré des gens autour de nous, hein, parfois,
tout à fait.
Qui ont ce type de fonctionnement. On les repère.
Cette stratégie de négativité. Donc, du coup, de toute façon, je suis bon à rien, je suis nul, je n'y arrive pas, et puis je n'arriverai jamais à faire ce qu'on me demande. Donc, ceci, c'est un, on va dire, un cercle vicieux qui amène vraiment à renforcer, parce qu'on est également là-dedans aussi, à renforcer la croyance dysfonctionnelle que je vais pas bien parce que je suis nul.
Et que j'échoue tout le temps.
Et
exactement.
Donc, ton travail à toi, c'est de l'amener à retirer ses lunettes.
Exactement. Donc, le but, c'est de retirer ses lunettes. Donc, on va commencer à travailler sur ce que j'appelle, moi, le plaisir. C'est-à-dire commencer à comprendre qu'est-ce qui peut faire du bien. Mais ça peut simplement être juste prendre conscience. Parce que, justement, par cette pensée, de toute façon, je suis nulle, je ne sers à rien. Ben, je vais peut-être me faire un thé ce matin. Et je vais voir qu'est-ce que ça va me provoquer. Est-ce que c'est agréable, désagréable.
Revenir au ressenti, au corps, etc. Exactement. C'est une des façons de... Ah oui, c'est intéressant.
D'accord. C'est des thérapies, en revenant beaucoup sur les ressentis.
D'accord.
Et sur le présent.
Et justement, c'est dans le cadre des troisièmes vagues. Parce que justement, bon, on travaille de façon complètement intégrative. Hein, donc
la vague émotionnelle.
Les trois vagues, voilà. Ouais. C'est cette émotion. Qu'est-ce que ça me provoque? Il y a l'émotionnel, mais il y a également le senti, ressenti corporel. Et c'est ça qui est important. Moi, je donne beaucoup d'exercices dans ce sens-là. Parce que quelqu'un, justement, qui ne va pas bien, à un moment donné, il ne fait que renforcer, justement,
En permanence,
cette négativité.
Et je dirais aussi que de se recentrer sur le corps, ça permet aussi de lâcher le cerveau qui est là, à tourner en boucle.
C'est ça.
Tout à fait.
Les ruminations,
en fait, quand on reste sur le corps, on rumine beaucoup moins.
Tout à fait, ruminations. Donc, le fait de pouvoir, justement, se concentrer quelques minutes, ne serait-ce que quelques minutes, permet, justement, de couper cette rumination. Donc, c'est pour ça que moi, je demande de la concentration sur juste ce que je suis en train de faire à l'instant présent.
Avant de reprendre cette fois plus en détail la relation patient-thérapeute, c'est l'objet de notre deuxième partie, pourrait peut-être rapidement faire un petit point sur à qui s'adresse quels sont les profils des personnes qui sont susceptibles de bénéficier de ces thérapies.
Alors, il n'y a pas de tranche d'âge. On va dire que des enfants aux senior plus.
D'accord.
Et là-dessus, moi, j'ai un panel assez large.
D'accord.
Est-ce que peut-être tu peux nous dire quelles pathologies, entre guillemets, sont les plus... vont être le plus facilement prises en charge par...
Alors, donc, il y a tout ce qui est phobie.
Ouais.
Tout ce qui est trouble obsessionnel compulsif, qu'on appelle des TOC. Beaucoup de troubles anxieux. généralisée, TAG, dépression, trouble panique. Ça s'adresse à pas mal, en effet, à pas mal de pathologies.
Je disais...
là, c'est les plus courantes, en tous les cas, qu'on va retrouver dans en ville, en cabinet de ville.
Est-ce que les addictions, ça peut être aussi pris en
Bien
charge
sûr,
par
les addictions. Les addictions également sont d'ailleurs assez recommandées avec les TCC.
Il y a un article récemment dans theconversation.com, un site que je recommande à tout le monde, qui parlait des jeunes aujourd'hui, des enquêtes assez récentes sur ces 3-4 dernières années et une véritable explosion de tout ce qu'on pourrait ramener à ce que tu as dit, les troubles anxieux chez les jeunes filles. Et quand je dis jeunes filles, ça commence à 10 ans, ça va jusqu'à 30 ans. C'est effarant.
On le voit chez nos
l'explosion
élèves
de toutes ces manifestations diverses et variées de troubles anxieux. Je ne sais pas si tu en as la traduction dans les personnes qui viennent te voir ou pas particulièrement.
Bah, c'est-à-dire que bon, on a quand même vécu les deux dernières années, enfin il y a 2 ans, une période qui a été très très difficile et qui a justement fait ressurgir. C'est le Covid, hein, bien sûr, dont je parle, et surtout le confinement,
bien sûr.
Et donc, qui a fait ressurgir toutes les... Je pourrais pas dire faiblesses, mais en tous les cas, tout ce qui... Toutes les fragilités.
Voilà,
les fragilités que chacun nous avons.
Oui.
Et qui les a fait remonter, qui les a renforcées. Le fait de ne plus pouvoir parler à personne, d'être complètement enfermé. Pour ceux, en tous les cas, qui étaient en ville, qui étaient très contrôlés. Oui. Hein, je ne parle pas forcément de ceux qui étaient en campagne. Quoique, certains m'ont dit, le fait d'être en campagne, c'était leur rêve. C'était une année paradisiaque. Ouais. Parce que justement, ils vivaient en autarcie et dans un environnement très agréable. Ouais. Donc, ça a individualisé complètement, mais avec nos propres peurs. Parce que nous sommes tous justement habités par nos peurs.
Oui. On a tous des névroses aussi, il faut peut-être le dire quand même aux gens. Tout le monde en a, personne
n'est
chaque.
Mais c'est normal. Tout à fait, et c'est normal parce que la peur est une émotion qui, elle, est tout à fait en nous, les génétiques.
On va peut-être passer, Geneviève, si tu le veux bien, à la deuxième partie de l'émission.
Alors, je me permets juste de rebondir sur ce que tu viens de nous expliquer. Il se trouve que j'ai assisté il y a 2 semaines à une conférence d'Olivier Revol qui démarrait justement en rappelant que la 4e vague, c'est une vague psychiatrique et que donc dans ses services, alors pour information, Olivier Revol, c'est un neuropsy. il est chef de service à l'HFME, l'hôpital femme-mère-enfant à Bron. C'est une pointure vraiment dans la prise en charge des ados, des enfants, dans toutes leurs différences.
Et c'est cette histoire de 4e vague ?
Alors cette 4e vague, c'est-à-dire que concrètement, la 4e vague de maladie qui a déferlé, c'est pas une nouvelle forme de Covid qui a débarqué, c'est vraiment toutes les conséquences psychiatriques que ce confinement a déclenché. Et il enregistrait, donc là ce sont des chiffres, au-delà de notre perception, elle est mesurable malheureusement, c'est-à-dire qu'en 2021, on a noté plus de 40% d'augmentation des troubles psychiatriques pris en charge, 10% pour les hommes et plus de 50% d'ETS enregistrés pour les femmes, pour les jeunes filles. Pour les jeunes filles.
D'accord. Donc
ça en dit long quand même.
C'est ce que je venais d'évoquer.
Et il expliquait que justement, le pourquoi, c'est tout simplement parce que les enfants, les ados, ont passé beaucoup de temps derrière les écrans, qu'on fait l'émission de la dernière fois.
Un peu plus, d'accord, on va dire.
Et souvent, les hommes, les jeunes garçons se bagarrent jeux vidéo. Ils s'en mettent plein la tête. Ouais. Virtuellement, bien sûr. Ouais. Alors que les jeunes filles, du coup, elles se comparent sur les réseaux sociaux. Voilà. Et donc
la pression sociale des réseaux sociaux est encore beaucoup plus forte pour les filles que les garçons, en gros.
Exactement.
Oui, parce qu'il est vrai qu'on réagit en fonction de l'environnement aussi, dans lequel on évolue. Donc, les schémas que nous avons s'adaptent au fur et à mesure que l'on grandit. Mais en même temps, en fonction de l'environnement dans lequel on évolue, s'ils changent, ils deviennent complètement dysfonctionnels.
Voilà. D'accord. En clair, pour moi, Christelle, tu fais un job ô combien nécessaire.
Voilà.
Ô combien utile.
J'espère. Socialement indispensable.
J'espère.
Voilà. Enchaînons avec une partie numéro 2, par exemple. Voilà, c'est bien, ça fait bien structuré comme ça. On retrouve bien l'enseignant.
On est prof. Donc,
le grand 2, la relation patient-thérapeute. Petit 1.
C'est parti, mon kiki.
Alors concrètement, quels outils tu peux proposer justement à un patient ?
Alors déjà, ce que j'ai envie de dire dans le cadre de la relation thérapeutique, c'est que c'est un travail d'équipe. Quelqu'un qui vient entamer une TCC, il va trouver en face un thérapeute avec lequel il va pouvoir interagir. Le thérapeute a des outils, le patient connaît ses troubles, en tous les cas, il connaît pourquoi, enfin, il sait pourquoi il vient, et c'est lui qui a le pouvoir de son pouvoir à lui par rapport à ce qu'il est en train de vivre. Le thérapeute est là pour lui apporter des outils pour voir corriger ce qu'il a besoin de corriger. Donc, il est hyper important que cette alliance thérapeutique, déjà, se mette bien en place. C'est important d'avoir confiance.
Oui, tout à fait.
Mais alors, comment tu vois ça, justement ? Comment est-ce quels sont les critères, ou en tout cas, toi, est-ce qu'il y a des choses qui te semblent importantes ?
La psychoéducation est très importante. Mm-hmm. Et puis...
C'est-à-dire ?
Expliquer ce que la personne ressent.
D'accord.
Expliquer pourquoi, peut-être, elle le ressent. Mm-hmm. L'interroger. Donc, c'est là où on s'aperçoit que, bon... L'histoire du patient, malgré tout, par rapport au trouble pour lequel il vient, est important. Quelqu'un qui vient parce qu'il a justement un syndrome dépressif ou qui est en burn-out, par exemple, par rapport à son parcours, peut-être la pression qu'on lui a déjà mis depuis qu'il est tout petit, le rôle qu'il avait au sein de la famille, vont l'amener à avoir toujours et toujours plus, justement, de renforcements qui vont lui mettre encore plus de pression. Et ça, il va donc renforcer sa pensée, je dois être à la hauteur, je dois être à la hauteur, jusqu'au moment où il va, ce que j'appelle, cramer ses cartouches. Et à un moment donné, il ne pourra plus rien faire, il ne pourra plus avancer.
Donc ça veut dire que dans un tout premier temps, il y a cette phase de découverte, entre guillemets, il faut qu'il confie tout ça, que tu puisses découvrir tout un peu tout ce contexte familial, historique, etc. Et après, c'est... Après ça, que cette alliance thérapeutique se met en place sous forme d'une sorte d'accord symbolique, non ? Ou ça se construit au fur et à mesure ?
Ça se construit au fur et à mesure, c'est-à-dire qu'il faut que chacun puisse avoir confiance.
D'accord.
Donc, mais la confiance, c'est vrai que ça ne se gagne pas tout de suite. Mmh. Hein, ça se gagne au fur et à mesure. Et au fur et à mesure, surtout l'interaction et la fluidité du dialogue qui s'installe entre le patient et le thérapeute permet de renforcer. Donc, et dans cette dynamique d'échange, ce qui est surtout très important, c'est que le thérapeute puisse renforcer de façon positive tout ce que le patient va pouvoir mettre en place. C'est-à-dire que dès le départ, on va mettre des outils en place, dont on sait qu'on va en parler tout à l'heure. Et ce qui est hyper important, c'est la dynamique de feedback, c'est-à-dire à chaque séance, c'est dire, alors, comment ça s'est passé ? Qu'est-ce qui a été difficile pour vous ? Comment vous avez vécu tel ou tel exercice ? Et de pouvoir justement le féliciter s'il a réussi, comprendre s'il ne l'a pas fait, qu'est-ce qui s'est passé, et pour pouvoir justement l'amener à trouver, une recognition par justement ses pensées, dont on parle tout à l'heure, parce que, comme je voulais vous l'expliquer, on a à chaque situation, on a des pensées automatiques. Tout à l'heure, je disais, l'enfant, par exemple, s'il a toujours entendu qu'il était nul, il va dire, je suis nul. Un enfant qui a été, par exemple, maltraité, on a toujours dit, de toute façon, t'es qu'un vaurien, tu feras jamais rien de ta vie. Donc, on va développer, justement, peut-être une certaine méfiance. Et le jour où il va rentrer dans un magasin, voyant un vigile qui va commencer à le regarder, il va avoir cette réaction, mais tu veux ma photo. Et ça s'est déjà vu. Et donc, ça va déclencher des comportements, parce qu'il y a eu des émotions, par exemple, une émotion de colère, qui va faire que, cette personne-là va très mal réagir par rapport à cette...
Oui, c'est un chouette accompagnement, ce que tu nous proposes, en tout cas. Voilà. Il va avoir cette réaction-là, mais on peut aussi faire autrement.
Exactement. Donc, comprendre par quelles pensées automatiques pour pouvoir justement remplacer ces pensées automatiques par ce qu'on appelle des pensées alternatives, qui conviennent mieux pour avoir un comportement, des émotions qui sont plus adaptées à ce que veut la personne aujourd'hui.
Super, ok. Eh bien, je vous propose du coup de réfléchir à tout ça le temps d'une petite pause musicale. Thank you. c'est absolument magnifique. Voilà. Quelle délicatesse, quelle douceur. Vous venez d'écouter Armelle Dupasse Trio, Follow the Light. Voilà, ben, suivons cette émission, justement.
Galade.
Les couleurs du monde.
Voilà, chers auditeurs, restez encore avec nous pour cette dernière partie, déjà un petit peu entamée d'ailleurs, hein, en compagnie de Christelle Rest, qui va du coup nous repréciser un petit peu donc, les caractéristiques, ou en tout cas la relation patient-thérapeute dans le cadre des thérapies cognitives.
Cognitives. Ou cognitives, c'est toi qui vois.
Bon, moi, je préfère les chatons.
TCC pour les intimes.
Et on était dans la partie où on détaille la relation parent-thérapeute. On a commencé à parler, du moins Christelle a commencé à nous présenter cette phase initiale où il y a vraiment une nécessaire découverte eh bien, de l'histoire du patient, en quelque sorte, une phase qui peut durer plus ou moins longtemps selon le type de problématique.
Oui, exactement, le trouble pour lequel le patient vient. Mm-hmm. Pour ça, on fait ce qu'on appelle une analyse fonctionnelle.
Voilà.
Donc,
c'est-à-dire
en collaboration avec le patient, on va essayer de formaliser justement le problème qui l'amène. Mmh. Et ce qui contribue justement à maintenir dans le temps ses comportements, ses pensées et ses émotions. Mmh. Donc, le but, c'est de recueillir un maximum d'informations. Mmh. Alors, pour ça, on utilise un journal. Enfin, moi, j'appelle ça le journal de bord, le journal... pour que ça soit moins... Parce qu'en général, quand on fait des TCC, on travaille aussi en dehors des séances. C'est comme les cours de musique, comme je dis toujours. Moi, qui suis pianiste, par exemple, je dis toujours que un pianiste, quand il commence à étudier, il va étudier avec son prof, éventuellement, mais après, il faut qu'il travaille tous les jours.
D'accord.
Et les TCC, c'est le même principe. Pour avoir, justement, des progrès, je parlais tout à l'heure de collaboration avec le patient, mais c'est... le patient doit également...
être rigoureux et persévérer.
Et surtout, s'engager, c'est un engagement important.
Ouais, finalement... t'es en train de nous dire, Christelle, que t'as pas de baguette magique, quand même. Hein.
Non.
Ouais. Bah, ça, c'est chouette. Ça, c'est
je
bien.
Je suis pas magicienne.
C'est important.
Et finalement, tu fais comme nous, les profs, tu donnes des devoirs à tes patients.
Exactement. Alors, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop. Donc,
mais
c'est là où on va travailler là-dessus.
Explicitement des choses à faire.
Oui, explicitement.
Concrètement, tu peux nous donner un exemple?
Alors, un journal de bord, par exemple.
Ah oui, d'accord.
Ça peut être... repérer toutes les situations où le patient va ressentir un certain type d'émotion, par exemple une angoisse, d'accord. Hein, une anxiété, qui découle d'une pensée, par exemple, je ne vais pas y arriver. Mm-hmm. Dans le cadre de phobie, par exemple, on peut l'avoir. Chaque situation, je sais que je dois aller, par exemple, travailler. Je ressens de l'anxiété. Quelle pensée automatique ? Je repère à ce moment-là.
D'accord.
Mmh. Donc, cette pensée automatique va m'amener aussi à avoir un comportement. Donc, le comportement, c'est que je vais commencer à trembler, à peut-être ne pas résister à y aller. Parce que, justement, tout à l'heure, on parlait de peur. Mais ce qu'il faut surtout repérer, c'est, dans le cadre de cet exercice-là, de ce journal de bord, c'est où est-ce qu'il y a d'évitement, où est-ce qu'il y a de la lutte. Mmh. Ou éventuellement de la paralysie, parce que la phobie peut amener jusqu'à la paralysie. Mmh. Donc c'est repérer qu'est-ce que se dit la personne, qu'est-ce que dit le patient. Ben, il faut que je sois à la hauteur, il faut que je réussisse à être bon. Parce que justement, dans le cadre de son cheminement, en tous les cas depuis qu'il est jeune, il aura eu cette pression. Et le but, c'est de pouvoir l'amener à penser d'une façon différente. Donc, pour ce faire, il faut avant tout constater
ce qui est
en train de se passer sans jugement de valeur.
C'est important, ça.
Et ça, c'est très, très important. Et c'est très difficile pour certains. Et surtout, pouvoir justement accepter aussi qu'on fonctionne comme ça. Mmh. Parce que si on n'accepte pas, on ne peut pas changer.
Mais alors,
on ne peut pas modifier quoi que ce soit.
Ouais, c'est que tu vas changer donc, le comportement, tu vas changer... l'engagement
pensée,
du patient, hein, bien sûr.
En changeant la pensée automatique, par exemple, disant, mais qu'est-ce que j'ai à perdre ? Peut-être aucun, mais je suis quelqu'un de bien, je suis un bon professionnel, puisque je parlais tout à l'heure phobie dans le cadre du travail, mais ça peut être dans le cadre aussi un rendez-vous amoureux. Mmh. Hein, c'est de toute façon, je suis nulle, parce que justement, j'ai déjà échoué, j'ai été, on m'a gentiment reconduit, donc du coup, bah, j'ai peur d'y aller, quoi. Mmh. Donc, c'est commencer à travailler justement une pensée alternative qui soit cohérente pour le patient et l'amener donc à avoir une émotion différente.
Est-ce que je peux partager un petit truc que moi j'ai vécu, justement sur les exercices. Mmh. Moi je travaillais sur le fait d'avoir du mal à dire non. Mmh. Et ma psychologue m'a proposé d'aller, à chaque fois que j'allais à la boulangerie et que la boulangère me posait une baguette, de dire « Ah non, en fait, je voudrais l'autre.
»
Et
casse-pied.
En fait, c'est très simple, ça. Mais pour moi, c'est hyper dur de faire ça.
Oui,
et en fait, elle m'a dit « Voilà, sur une petite chose comme ça, c'est un entraînement pour arriver après à dire non sur des choses plus... »
Plus d'impact,
et le fait est, Geneviève, tu as repéré récemment que ça avait plutôt bien fonctionné.
Complètement. Je te félicite.
Merci.
Tu arrives mieux à dire non maintenant. Bravo.
Bravo.
Bravo, Emma.
Bravo.
C'est bien.
Il faut être fier de toi.
C'est gentil.
Alors, on avait noté dans nos fiches préparatoires ce point important qui est la fixation d'un objectif. Quand est-ce qu'il survient est-ce qu'il y a un moment précis ou est-ce qu'en fait ça se fait petit à petit?
Ça peut être verbalisé tout de suite par le patient.
D'accord.
Ou en effet, ça peut se verbaliser après cette analyse fonctionnelle par rapport à ce que ressent le patient.
D'accord.
Et puis bien sûr, ce que le thérapeute va pouvoir déceler. Donc on peut aussi peut-être faire parfois certaines propositions. Mais de toute façon, c'est le patient qui décide.
Ouais, ça, je trouve ça très important d'insister là-dessus aussi. En fait, tu t'adaptes complètement à la manière dont la thérapie se déroule, au patient, à sa problématique. Donc, toi aussi, quelque part, tout n'est pas écrit d'avance. Tu n'appliques pas, patient A égale tel chemin, première étape, deuxième étape, troisième étape. Tout se construit au fur et à mesure, finalement.
Oui, tout se construit parce qu'en fin de compte, ce qui est important en tant que thérapeute, c'est de repérer, en effet, les fonctionnements du patient. Mm-hmm. Donc, voir si, en effet, il est plus dans l'évitement. Et puis, commencer peut-être, du coup, j'y vais pas. Ou je me prive de ci ou de ça. Parce que, justement, il faut que j'arrive à, par exemple, à rendre satisfaction. Donc, pour ça, je ne vais pas sortir. Je ne vais plus avoir de vie sociale. Parce que, justement, il faut que je sois que concentrée, puisque j'ai peur de ne pas y arriver. Donc, sur la réussite, en fin de compte, que la personne s'inflige. Donc, elle se fait ce qu'on appelle un renforcement négatif.
D'accord.
Le but, c'est de commencer à ce qu'elle prenne conscience que, tout doucement, en changeant peut-être cette pensée, c'est de se dire, si j'essayais de me dire que, en fin de compte, j'y suis déjà arrivée, j'ai déjà eu la preuve que ça avait marché, que j'ai déjà eu de bons résultats après avoir donné telle satisfaction dans le cadre de mon job ou dans le cadre de ma vie. Du coup, c'est de commencer à lui faire prendre conscience. Par exemple, je vais reparler d'un autre exemple. Par exemple, quelqu'un qui est phobique de l'eau. Le gamin, par exemple, ou la personne se dit... parce qu'on a tous des phobies, on a tous des peurs, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. On va déjà mesurer aussi au niveau de l'échelle. Sur 10, à combien j'ai peur? Donc, quelqu'un qui a une peur moyenne, on va lui demander, allez, vous allez aller dans l'eau. En effet, du coup, je vais m'apercevoir que je ne suis pas tout seul, que je vais peut-être pouvoir faire une partie de volet dans l'eau, etc. Donc, je vais oublier ma peur, parce que je vais m'amuser. Et quelqu'un d'autre qui donc sera plutôt à 9 sur 10 sur sa peur, la pensée qu'il aura, c'est « j'ai eu raison de ne pas y aller, parce que de toute façon, je n'aurais pas pris de plaisir. » Alors qu'en réalité, on va reprendre justement cette pensée-là pour l'amener à penser d'une façon un petit peu différente, parce qu'en fin de compte, ça, c'est de l'évitement.
Mmh. Oui, complètement, oui.
On peut citer éventuellement d'autres exemples d'objectifs, dans d'autres cas de figure, une personne qui est sur des troubles anxieux, etc. Quel type d'objectif on peut lui poser?
Souvent, quelqu'un qui a des troubles anxieux, le but, c'est qu'il vive mieux.
Ouais.
C'est une des premières choses souvent qu'on me dit, en fin de compte, j'ai un peu plus, il faut que je change. Quoi. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Donc, on va travailler justement sur cette anxiété et on va reprendre... Toute cette analyse, l'amener donc à travailler sa recognition, donc voir les dysfonctionnements, la distorsion cognitive, voir aussi ses techniques comportementales. Donc là, on est dans l'évitement, on est plutôt dans la lutte. Repérer en effet sur quelle émotion je lutte. Parce que bon, le fait d'avoir peur, comme c'est quelque chose de naturel au départ, c'est quelque chose d'assez spontané. Donc, voir s'il y a une cognition, donc un stimulus qui va se mettre dessus. Parce qu'en fin de compte, on est motivé, on est toujours en interaction avec soi-même hein, par des stimulus. Par des stimulus, pardon.
Et du coup, là, dans ce cas-là, l'objectif du patient, ça pourrait être, ben voilà, j'ai un niveau d'anxiété globale à, je ne sais pas moi, 8 sur 10. Je voudrais arriver à 3 sur 10. Ça peut être un objectif que tu fixes avec un patient, par exemple ?
Oui, tout à fait. D'accord. Et voir sur quoi, en effet, quels sont j'irais presque les sujets principaux sur lesquels il est anxieux. Et on va retravailler justement toute la technique des pensées automatiques.
Alors,
on va travailler sur...
Peut-être je fais le lien avec un point que je voudrais qu'on aborde, c'est les exemples d'outils que tu peux utiliser. Je sais qu'il y a une palette assez large, mais voilà, quel genre d'outils on peut utiliser à partir de là pour aider le patient à atteindre son objectif, quoi.
Bah, par exemple, on peut prendre les techniques pour modifier les cognitions négatives. On va examiner l'évidence. Trouver d'autres interprétations, établir des probabilités de chaque interprétation. Est-ce que à chaque fois c'est négatif, par exemple ? Est-ce qu'à chaque fois vous échouez, par exemple ?
Faire noter au patient, bah là par exemple j'ai réussi, dans telle situation j'ai réussi,
exactement.
Pour qu'il puisse constater que ce n'est pas vrai, cette pensée est fausse en fait.
Ouais. D'accord.
Voilà, on va tester les hypothèses en expérimentant. On va essayer de permettre de se décentrer en tous les cas, de se prendre une certaine distance par rapport à cette pensée négative. Et puis, on peut faire aussi des jeux de rôle. On peut mettre en situation. Donc, pour que la personne puisse tout doucement prendre bien conscience, pour qu'on puisse après travailler sur un autre schéma de pensée.
Oh, c'est magique. Alors, ça veut dire que... Enfin, c'est magnifique. Ça veut dire qu'on est... On est libre de construire un présent libre. Enfin, un présent, enfin, je suis désolée, c'est pas très joli ce que je viens de dire. On est libre de construire un présent, finalement, où on peut se défaire de ses chaînes.
Débarrasser de ses chaînes, voilà, c'est ça.
Ouais,
chaînes,
ou
alléger, en tout cas, les chaînes sont au début un peu moins serrées autour de nous, quoi. Hein, on les allège petit à petit.
Et d'aller bien.
Et
d'aller bien.
Donc après, c'est une question de valeurs sur lesquelles on va pouvoir... se baser, hein, mais en effet retrouver une forme de liberté.
Alors, peut-être pour finir, un dernier point qu'on avait évoqué, qui sont des évolutions, si je ne dis pas de bêtises, de la thérapie des TCC, c'est le travail pour découvrir comment on s'est construit, peut-être la thérapie des schémas, non ? J'ai une bêtise ?
C'est vrai que les TCC, ça s'intéresse sur comment je peux faire pour aller mieux, alors que moi, j'utilise... beaucoup la thérapie des schémas, justement, pour comprendre comment la personne aussi s'est construite.
Voilà, c'est ça. Et ça, c'est assez récent, hein, la thérapie des schémas. Enfin, historiquement, on va dire, c'est les années 90.
Oui, c'est ça. C'est Jeffrey Young qui a réintroduit la thérapie des schémas dans le cadre des TCC, justement pour permettre aux patients de comprendre aussi pourquoi ils fonctionnaient comme ça. Donc, on va travailler donc sur des domaines comme, par exemple, le rejet, l'abandon.
Oui, d'accord. J'allais dire, tu peux donner des exemples de schémas.
Oui, il y a des... Alors, le schéma, par exemple, d'abandon, le schéma de la méfiance. Hein, on va avoir... Après, donc, on a des schémas de base. Hein, puis après, on va avoir des schémas secondaires qui vont se greffer dessus. Hein, comme tout à l'heure, je parlais de peur de ne pas réussir. Ben, c'est un schéma d'imperfection. Oui. Mais qui va très souvent... qui a une relation avec un schéma de base. Oui. Et puis, par exemple, le sacrifice de soi. J'ai toujours donné plus pour l'autre, en oubliant ses propres besoins. Donc... comprendre justement comment la personne peut se construire, elle s'est construite, et de repérer tous les schémas dysfonctionnels qui aujourd'hui dans sa vie ne lui conviennent plus.
Ah oui.
Très bien.
Et, ouais, et donc du coup, repérer des schémas et en même temps sortir de cette caricature.
On va devoir conclure, Geneviève. Il ne nous reste plus qu'une minute d'intervention. On va peut-être remercier Christelle Rest, préciser qu'elle est psychothérapeute sur Villefranche. Où est situé ton cabinet ?
Il est au centre de Chavannes, qui se trouve 141 rue de Chavannes, à Villefranche.
D'accord, très bien. On mettra peut-être un lien dans le podcast avec tes coordonnées. Ce sera plus simple pour les personnes qui pourraient être intéressées à te contacter professionnellement.
Que d'optimisme. Voilà, j'ai envie de rester là-dessus, que d'optimisme. Et on en avait parlé, j'ai envie de conclure avec la présence de Marc Aurèle. Voilà, qui est du coup empereur romain, philosophe, et qui a écrit, je trouve, une très belle phrase, que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé et le courage de changer ce qui peut l'être, mais aussi, et ça c'est essentiel, la sagesse de distinguer l'un de l'autre.
Oui, et puis moi je voudrais juste rajouter une citation aussi de Kierkegaard, qui est un philosophe également.
On fait une battle de citations.
Là, c'est trop fort, là. Je suis épatée.
Qui dit que ce n'est pas le chemin qui est difficile, mais c'est le difficile qui est chemin.
Waouh ! Bravo, bravo. Merci Christelle Reiss pour cette émission tout à fait passionnante.
Merci de m'avoir reçue. Merci à vous tous et merci pour votre accueil.
Merci à tous.
Calade. Les couleurs du monde.
Histoire.
Pensée.
Culture.
De Villefranche à Tataouine.
Sur le 100.9 et radio-calade.fr.